Bon mercredi tout le monde, bienvenue dans Toute Liberté avec Joey Aubé. Cette semaine avec Jacinthe Evarel, on parle du nombre d'agressions, en fait des cas d'agressions sexuelles au Canada. Ben, pas qu'on les incrimine pas ou que le système judiciaire ne fonctionne pas, il fonctionne, mais depuis que le projet de loi C5 du Parti libéral du Canada a été mis en œuvre, ben le nombre de peines bonbons, ou de peines à purger dans la collectivité ou à la maison précisément, quadruplé. Depuis les dernières années, donc nos chers agresseurs sexuels, rapists and all the way, ben finalement, il y en a qui ne se rendent même pas en prison, mais sont condamnés. Fait que, c'est un sujet assez crunchy, mais il faut quand même le dénoncer. Fait qu'on en parle ce matin dans En toute liberté. Salut Jacinthe.
Salut Joey.
Yes, c'est un article que tu m'as envoyé, Journal de Montréal, je le prends à l'écran immédiatement. 4 fois plus d'agresseurs sexuels ont obtenu une peine à la maison en 2023. Il s'agit d'une forte hausse due aux assouplissements permis par le fédéral avec la nouvelle loi C5, déplore plusieurs observateurs. Et par Camille Payan. Écoute, on avait déjà entendu plusieurs bribes, que plusieurs histoires dans différents médias, pas nécessairement traditionnels, mais plus alternatifs, qui parlaient justement de peine bonbon pour certains cas. On parle de quasiment 40 % des cas, des dossiers dans le coin de Sherbrooke et à Laval, des peines d'emprisonnement dans la collectivité qui représentent même plus de 40 % des dossiers en 2023. On parle de peines, c'est ça, là. Je scroll ici, là.
Ouais.
Félix Boudreau, dénommé, âgé de 24 ans, 18 mois à la maison. Jonathan Gravel, 20 mois à la maison. Martin Brosseau, 21 mois à la maison. Victor Massur, 12 mois à la maison. Écoute, parce que la pandémie, on l'a eu, là, l'enfermement, puis écoutez, je veux pas m'identifier à ces gens-là, aucunement, je suis mon casier judiciaire est libre, mais donc, dans ma job que j'ai présentement, ben je passe pas mal beaucoup de temps chez moi. Je sors, faudrait que je touch the grass plus souvent, faudrait que je sors plus, mais comme je vous dis, il y a quand même moyen de s'entertainer puis rester à la maison, puis c'est pas l'enfer, puis c'est pas la prison, là. Fait qu'à un moment donné, pas l'abnégation, mais l'acte de rédemption, de comprendre un peu tes faits et gestes, puis de faire pénitence. Donc, à la maison, il y a moyen que ça n'arrive pas, là.
Oui, c'est sûr que on est bien chez nous, quand même.
Malgré c'est ça. Tout.
Normalement, on est bien chez nous.
Home sweet home, c'est carrément ça, là.
Ben oui, c'est un article, on l'a vu là, quand tu l'as montré, qui date de février cette année, mais il reste que ça fait, on réfère à la loi C5 qui a été passée par le gouvernement Trudeau en novembre 2021. On y réfère encore dans l'actualité parce qu'on est en train de constater ce que ça a changé dans le système carcéral, dans les traitements de la peine au Canada. Donc, on commence à voir les effets. Ça fait déjà plus qu'un an que la loi est mise en œuvre. Puis, il y a le Parti conservateur du Canada, notamment, qui dénonce cette loi-là, puis qui s'engage à abolir la loi C5 avec toutes les conséquences que ça a posées dans notre société. Puis, c'est de ça que j'avais le goût de faire le tour aujourd'hui, parce que je voyais ça passer, puis je me disais, crime, ça fait pas tant que ça, les manchettes. Mais pourtant, c'est très préoccupant. Donc, la loi C5, elle a été passée en novembre 2021. Et si tu veux mettre la première photo, on a créé cette loi-là pour répondre à un constat clair de surreprésentation des délinquants autochtones et noirs dans les établissements correctionnels. C'est vraiment les fondements de cette loi-là prennent racine dans la surreprésentation des délinquants autochtones et noirs dans les établissements correctionnels. Donc, les délinquants autochtones, en janvier 2020, okay, ils comptaient pour un peu plus de 30 % de la population adulte dans les établissements correctionnels fédéraux, alors que dans la population canadienne en général, ils représentent 5 % Et les femmes autochtones, ils sont encore plus surreprésentées. Ils forment 50 % des femmes détenues dans les établissements correctionnels fédéraux, alors que, ils forment seulement 5 % de la population. Donc, le nombre de délinquants autochtones a augmenté dans la dernière décennie et ça fait en sorte que les délinquants autochtones sont plus susceptibles d'être placés en détention que les délinquants non autochtones. Les Noirs sont aussi également surreprésentés dans le système de justice pénale fédérale, qui représente 7,2 % de la population des délinquants fédéraux, alors qu'ils représentent 3,5 % de la population canadienne. Donc, ça, c'est les fondements. On s'est dit, nos prisons sont remplies particulièrement de personnes autochtones. Pourquoi ils sont là? Pourquoi ils sont incarcérés? On a regardé les motifs pour lesquels on incarcérait plus les Autochtones et on s'est dit, bon, ben, on pourrait permettre d'assouplir la loi pour les motifs qui font en sorte qu'il y a une surreprésentation de ces populations-là dans les prisons. Je dois dire que la surreprésentation des personnes racisées dans les prisons, ce n'est pas unique au Canada. On le voit un peu partout dans le monde.
Oui, c'est aux États-Unis, c'est la même chose, quasiment en pire. Là.
Oui.
Fait que c'est pas un phénomène uniquement canadien.
Non, c'est un phénomène qu'on voit notamment justement aux États-Unis. Mais on s'est dit que la prémisse de ça, ça a été de dire, ben, faut qu'on s'attaque à...
Oui?
Ah, je m'excuse, mais il y a un décalage dans l'image, Joey. Je te voyais parler dans mon écran.
Ah, je te disais que tu décales un petit peu, mais je pense que ça revient de temps en temps. Fait que, bon, okay. Je ne sais pas si c'est ta connexion Internet, mais là, ça va bien.
Pour tout le monde. Je m'excuse, je te voyais parler, puis je dis, voyons, c'est... ça m'a déconcentré. Donc, voilà, on est parti de ce constat-là, puis on s'est dit, on va assouplir finalement nos lois pour s'assurer qu'il y ait moins de surreprésentation dans les établissements correctionnels. C'est vraiment drôle parce que tu parles en même temps que moi dans mon image, mais je ne te regarderai plus. Et là, ben, il y a un deuxième graphique qu'on peut montrer avec les colonnes qui démontre plus en image. Donc, on a regardé les chiffres là, depuis 2007. Donc, le nombre de personnes noires, d'autres groupes racisés et d'autochtones dans les établissements. Ça, c'est un graphique qui fait référence aux infractions relatives aux armes à feu. Donc, parce que ce projet de loi-là, C5, vient assouplir des peines relatifs à l'importation et l'exportation de drogue, aux infractions qui comprennent des armes à feu et aussi des toutes sortes d'infractions au code criminel qui ont été finalement visées par cette loi-là. Donc, vous voyez là que la proportion effectivement d'Autochtones puis de personnes est plus importante.
Sans vouloir faire nécessairement de tri ou de pointer du doigt certaines communautés, il faut quand même comprendre que, tu sais, c'est pas nouveau. Autant je veux pas dire que tous les Autochtones sont des voleurs ou sont des trafiqueurs d'armes ou de cigarettes ou de drogue ou whatever, mais il y a eu beaucoup de cas. On parle de Kanawagé ou peu importe, tu sais, ou plein d'autres réserves à travers le Canada que... C'est ça, des activités illicites, il y en a quand même beaucoup. Là. Puis mon but, c'est pas de dire que toute la communauté est embarquée là-dedans ou que c'est rendu un symbole des Autochtones au Canada. Je pense pas. Je pense vraiment que c'est une minorité de ces gens-là qui font une mauvaise tâche sur cette communauté-là. Par contre, c'est un peu comme aux États-Unis. Les autres, c'est vraiment plus la communauté noire qui est surreprésentée dans les milieux carcérales. Mais là, autant qu'on peut dire que là, c'est un racisme systémique dans le système de prison. Je dis pas qu'il n'y a pas un peu de vrai là-dedans, mais il y a aussi la fameuse affaire que l'économiste Thomas Sowell avait beaucoup expliqué, c'est la fameuse sous-culture noire, tu sais, la black subculture, tu sais, vraiment, tu sais, rap, gangster, whatever. Et il expliquait que justement, sachant que le nombre de familles noires monoparentales a quasiment passé de 24% des années 60 à plus de 70% dans les temps d'aujourd'hui, l'éducation, souvent, c'est des mères monoparentales, donc la figure masculine est moins là, donc moins d'autorité, moins d'éducation, moins de restrictions. Donc, ça donne plus de tendance à justement les gangs, les activités illicites, le crime organisé qui touche plus précisément ces communautés-là. Et il avait dit que, mais voyez, il dit, durant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des soldats noirs qui ont resté dans les pays d'Europe, en Allemagne ou whatever, tu sais, puis ont fondé des familles, puis les enfants de ces familles-là, ils ont vécu, ils ont grandi en Europe, venant de ces communautés-là. Et pourtant, vu qu'il n'y avait pas de sous-culture noire dans ces pays-là, ben, on ne voyait pas cette gradescence-là au niveau scolaire, on ne voyait pas ça au niveau des prisons. Fait que, tu sais, sans vouloir mettre toute la faute sur une communauté ou en tant que telle, disons que c'est multipolaire, mais blâmer ça uniquement sur du racisme puis dire que chaque communauté est blanc comme neige, c'est un peu faux non plus. T'sais, c'est vraiment, faut nuancer dans les propos.
Mais en fait, c'est le constat de ces études-là, puis c'est basé sur des données probantes, c'est que le système est finalement le système il y a du racisme systémique, finalement, au Canada à cause de ça. Mais les racines profondes de cette criminalité-là, c'est la pauvreté. Donc, quand on parle des infractions liées aux armes à feu, quand on parle des infractions liées au trafic de stupéfiants, ben, les racines profondes pour lesquelles les gens s'engagent dans des chemins délinquants, des chemins criminels, c'est des enjeux de pauvreté. En ce qui concerne la consommation de substances, ben là, c'est souvent, on en a parlé la semaine dernière, c'est souvent des enjeux liés à la santé mentale. Donc, si on ne s'adresse pas aux causes profondes de ces problématiques-là, santé mentale, pauvreté, bon, on va continuer d'avoir de la surreprésentation de certaines populations dans nos prisons. Et c'est ce que je déplore, c'est qu'on ne s'attaque pas aux racines des problèmes, on nomme pas les choses. Pourquoi il y a une surreprésentation de certaines populations dans notre milieu carcéral? C'est pas à cause que le système est raciste, c'est parce que laisse la pauvreté gagner du terrain dans certaines communautés et ne résout pas les enjeux liés à la pauvreté. Donc, la création de richesses, déjà, c'est notre point faible au Canada, c'est notre point faible au Québec. On a de la difficulté à créer de la richesse. Puis, on essaie de la répartir, mais on n'en a pas. Donc là, on taxe. Mais ça, c'est une autre histoire, c'est un autre dossier. Mais dans notre désir de répartir la richesse, on ne réussit pas à répartir la richesse puis à créer de la richesse suffisamment pour sortir les gens de la pauvreté, particulièrement certains groupes ethniques qui sont plus enclins à rester dans des schismes de pauvreté importants. Donc,
on est toujours plus en mode guérir qu'en mode prévenir.
Hein. Ben oui, c'est ça. Fait qu'on s'est dit, à place de s'attaquer aux causes puis aux racines, on va juste adopter une loi qui va faire en sorte qu'on va permettre un peu plus les peines d'emprisonnement à la maison. Et puis là, ben, on fait le constat dans l'article du Journal de Montréal là, du mois de février cette année que finalement, il y a même des agresseurs sexuels qui se retrouvent à avoir des peines d'emprisonnement à la maison, ce qui fait aucun sens. D'ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté une motion à l'unanimité pour condamner l'adoption de ce projet de loi, puis pour condamner le fait qu'il y a des agresseurs sexuels qui se retrouvent à avoir des peines à la maison. Alors que, par exemple, au Québec, le Simon-Jolin Barrette, notre ministre de la Justice, a travaillé fort pour avoir un système de justice qui est beaucoup plus sensible aux réalités des agressions sexuelles, beaucoup plus sensible aux victimes d'agressions sexuelles. Donc, c'est un non-sens que, de l'autre côté, au fédéral, on a Justin Trudeau qui, finalement, met en place une loi qui favorise les agresseurs, alors que du côté du Québec, on met en place des structures pour favoriser de prendre un peu plus en charge puis de prendre un peu plus soin de nos victimes d'actes criminels.
Et c'est surprenant, sachant que selon les statistiques, Jacinthe, que c'est encore majoritairement les femmes qui votent pour le Parti libéral du Canada, incluant Justin Trudeau. Il ne faut pas oublier la prémisse originale, autant que tu as absolument raison, la fameuse disparité des Autochtones dans nos systèmes carcérales, puis autant que c'est ça, comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. On est passé de ça à laisser quasiment des prédateurs sexuels en liberté, entre guillemets. Mais ça a commencé parce que le C5 a vraiment été là pour comme défaire ce que le gouvernement Harper avait fait des années d'avant. Parce que sous l'égide d'Harper, il y avait eu des projets de loi avec des peines beaucoup plus sévères pour les crimes sexuels. Et écoutez, je ne vous dis pas que c'était 100% positif. Il a dû avoir sans doute des effets secondaires pour certaines communautés ou certains actes plus mineurs qui étaient vraiment trop poussés. C'est un peu ça souvent, là. C'est que chaque parti, que ce soit les libéraux ou conservateurs, souvent, quand c'est leur tour, ils tirent la couverte de leur bord, mais ils tirent tout le temps trop loin. Fait que quand les conservateurs, ils disent « on va remettre ça », mais quand ils la retirent, ben, ils la retirent encore trop loin. Fait que le juste milieu est dur à aller chercher là-dedans, parce qu'on a comme toujours le goût de tout défaire ce que l'autre a fait, peu importe si ça a des bons effets ou pas. Ouais. Fait que j'ai l'impression que c'est ça, il y a une tentative de vouloir défaire l'héritage de Harper avec ce projet de loi-là, puis là, on voit un peu les résultats. Ben, gars, c'est ça, c'est malheureusement... Est-ce qu'il y a eu, ben regarde, je te pose la question, je ne sais pas si tu l'as donné récemment, là on parle bien sûr des agressions, des agresseurs sexuels, mais là pour ce qui est de la disparité des prisons, est-ce qu'il y a eu une amélioration depuis les dernières années avec ces cinq? Est-ce que c'est resté quand même pareil ou est-ce que justement ça a stagné ou ça n'a pas bougé du tout?
Ben la loi doit être révisée dans 4 ans après son adoption. Donc, ça a été adopté en novembre 2021, donc... après 4 ans, on va regarder les effets de ça, puis on va réévaluer. Fait que pour l'instant, on n'a pas les chiffres, ils sont peut-être disponibles, mais je ne les ai pas, puis ils n'ont pas été nécessairement diffusés. Mais là, je vais utiliser les bons termes qui sont utilisés dans cette loi-là. Donc, si tu veux bien mettre la troisième diapositive,
oui.
Basée sur le constat qu'il y avait surreprésentation des personnes autochtones et des personnes noires dans les prisons, on a dit on va élargir l'admissibilité aux peines avec sursis pour certaines infractions graves. Donc, les peines avec sursis, c'est des peines d'emprisonnement de moins de 2 ans qui sont purgées dans la collectivité sous réserve de conditions particulières. Donc, comme la peine avec sursis exige souvent que le délinquant purge la totalité ou une partie de sa peine à son domicile, on appelle parfois cette peine assignation à résidence. Donc, ce qu'on a fait avec la loi C-5, c'est que on a élargi l'admissibilité aux peines avec sursis. Donc, on a élargi la possibilité qu'un juge donne une assignation à résidence dans le cas d'infraction au code criminel. Et si vous regardez l'avant-dernier paragraphe de cette photo-là, pour ceux qui ont un grand écran et qui ne sont pas sur téléphone, sinon, je m'en
explique. Tu serais surpris la quantité de nos auditeurs qui sont sur l'UTV de 50 quelques pouces. Fait que je pense qu'ils vont avoir pas mal.
Ah oui, c'est bon. Donc, l'avant-dernier, ce que ça dit, c'est que l'article 14 du projet de loi C-5 modifie l'article 742.1 du Code afin de lever l'interdiction frappant les peines d'emprisonnement avec sursis pour les infractions passibles de peine d'emprisonnement maximale de 10 ou 14 ans dans les situations mentionnées pour les infractions particulières comme étant inadmissibles à l'imposition d'une peine avec sursis. Donc, ce que ça dit, c'est que même les peines qui ont un maximum d'emprisonnement de 14 ans, on a rendu admissible la peine avec sursis, donc
de moins de 2 ans.
À résidence. Donc,
c'est capoté,
là. Ça veut dire que des crimes aussi graves que l'importation et l'exportation de drogue te permet d'avoir accès à la peine d'emprisonnement à la maison. La possession de drogue te permet d'avoir des peines avec sursis, donc des peines d'emprisonnement à la maison. Certaines agressions sexuelles le permettent. Des infractions avec des armes à feu le permettent aussi. Donc, il y a toutes des circonstances que Jonathan Poulin pourrait nous expliquer. Là,
oui.
Qui font en sorte qu'on est admissible ou pas à la peine avec sursis. C'est-tu notre première infraction? Est-ce qu'on est un délinquant récidiviste?
C'est-tu à la discrétion du juge aussi? Oui. Ça, je serais curieux de savoir.
Oui, c'est sûr. Le juge il prend en compte différents facteurs, dont notamment, est-ce que c'est la première infraction? Est-ce que c'est un récidiviste? Est-ce que c'est un multirécidiviste? Donc, c'est sûr que ça donne pas carte blanche à tous les criminels dans les peines que je viens de mentionner, dans les infractions que je viens de mentionner, mais il reste que ça fait en sorte que dans certains cas, les juges ont l'option d'assigner à résidence beaucoup plus qu'avant pour beaucoup plus de délits, puis des délits qui sont quand même graves, notamment les délits en matière d'agression sexuelle, puis même, je voyais importation, exportation de drogue, je me disais, voyons, quel message qu'on veut envoyer. Voilà, tout ça pour réduire la surpopulation de nos personnes autochtones dans nos prisons. Fait qu'on a l'impression, avec cette loi-là, en tout cas, c'est l'esprit de la loi, on a l'impression qu'on va résoudre un problème, qu'on va résoudre un enjeu. Alors que dans les faits, si on veut réduire la criminalité, je ne pense pas que d'assigner quelqu'un à résidence, c'est très dissuasif. Je ne pense pas que ça envoie un message non plus que ces infractions-là sont graves, notamment en cas d'agression sexuelle. Puis, tu sais, dans le journal de Montréal, là, il y a des gens ici au Québec, là, 20 ans, 78 ans, qui a agressé un homme de 78 ans, qui a agressé une fillette de 9 ans. Et puis,
non, ça n'a pas d'allure. Puis si on ne parle pas, comme tu le dis, on ne parle pas de... Mon but, c'est pas... Je pense que ce qu'on souhaite dire, c'est pas nécessairement que ces peines-là à résidence n'existent plus. Mm-hmm. Je pense que dans certains cas, mettons qu'on parlerait d'histoire, mettons, de voie de fait avec lésion, par exemple. OK, ça crée un coup de poing, ou il y a une bagarre entre deux individus, ça a fini qu'il y a eu des blessures reliées à ça. OK, il y a eu de quoi de criminel relié là-dedans, donc il faut faire quelque chose. Parfait. Fait que là, je comprends que le gars, s'il y a un dossier judiciaire clean, première offense, mais il faut qu'en même temps, c'est pas que des travaux communautaires, tu vas régler ça. Ben justement, la session... le passage à la résidence ou la détention à résidence, ça peut peut-être rentrer en ligne de compte dans certains cas précis. Mais commencer justement, après ça, on se demande pourquoi le crime est de plus en plus rampant dans nos sociétés. Puis je pense simplement aux forces de l'ordre. Tu sais, qu'on parle de nos policiers, qu'on parle de nos enquêteurs, tu sais, les opérations des fois de démantèlement de réseaux de drogue ou whatever, qui prennent des mois de préparation, puis mettent les vies des gens qui travaillent pour nous autres en danger. Puis t'arrêtes tout ce monde-là, puis ils finissent quasiment, en tout cas, pour la plupart, à domicile pendant 20 mois. Oh, if! T'sais, même moi qui travaillerais là-dedans, je me dirais, ma job, elle sert à quoi? C'est parce que, justement, si on manquerait, la seule raison pourquoi ça pourrait fonctionner, c'est que si on manquerait justement de criminels, puis on se pognerait le beigne, un peu comme un pompier qui est dans un village qui n'a quasiment jamais de feu, il faut quasiment qu'il y ait de quoi, parce qu'à un moment donné, je me pogne le beigne. Mais non, il y en a trop de crimes présentement, puis on a de moins en moins de policiers qui aussi sont en pénurie de main-d'œuvre. Puis après toute la job que tu fais, tu vois que même pour tout ton dur labeur pour amener un semblant de justice dans nos sociétés est quasiment scrappé par le gouvernement qui te gère par-dessus. T'as quasiment le goût de changer de carrière, là, je suis désolé, mais ça, c'est pas motivant du tout, parce que tu dis, au moins lui, là. C'est un 15 ans en ferme, tu sais, il va apprendre, tu sais, c'est un 20 ans, let's go. Puis je suis pas dans la logique des États-Unis, des peines de 92 ans, là, à un moment donné, il y a juste un milieu à trouver. Mais c'est ça. Quand j'avais vu une histoire la semaine dernière, une vidéo que l'algorithme avait fait tomber, c'est une famille en Californie, un couple qui avait 12 enfants, puis qui ont quasiment, je dirais pas séquestré, mais. Ils n'ont jamais fait sortir les enfants de leur maison. Ils faisaient l'école à la maison. T'sais, une fille qui avait peut-être 14 ans, qu'elle a fui. En fait, elle a fait une fugue. Puis c'est de même qu'ils ont réussi à savoir qu'il y avait un crime qui avait été commis. Ils embarraient le jeune après le litre. C'était vraiment une histoire d'enfer de fou. Puis la fille, ils ont posé des questions. Le policier posait des questions. Mettons, do you have any injuries? Puis il dit, what's an injury? T'sais, elle a 14 ans, puis elle savait même pas c'était quoi, mettons, what's medication? Elle avait pas plus d'éducation qu'une fille, qu'un enfant de troisième année, puis elle avait 14-16 ans. Puis c'est tout de même pour tout le reste de la famille. Mais ces deux parents fous-là de cette famille-là, ben, ils ont eu 25 ans en ferme chaque. OK, ben, ça a de l'allure, si on s'entend. Au Canada, il y aurait eu quoi? 7, 8 ans? Peut-être même moins que ça? Pour des histoires d'horreur. Fait que, tu sais, à un moment donné, après ça, vous vous demandez pourquoi les gens ont plus confiance en nos institutions, ont plus confiance de moins en moins à notre société de droit. Mais c'est avec des histoires de même. Puis tout ça, puis c'est pas que le problème de la surincarcération des Autochtones n'est pas un problème. Mais tabarouette, j'ai l'impression qu'on a plus créé un plus grand mal avec ça qu'un bien. Puis mon but, c'est pas d'équilibrer un ou l'autre, mais à un moment donné, c'est ça. C'est quand tu fais uniquement des projets de loi pour du signalement de vertu, sans voir tous les effets négatifs que ça pourra faire, bien, ça donne ça.
Oui. Puis, tu sais, il faut savoir que de toute façon, les peines d'emprisonnement au Québec, les peines de 2 ans moins un jour, lorsqu'on a une peine de 2 ans moins un jour, on est éligible à une libération conditionnelle après le 6e de notre sentence. Mmh. Donc, le 6e de 2 ans moins un jour, c'est 4 mois. Donc, on peut sortir dans certaines situations avec certaines conditions, là, mais on peut sortir de notre peine d'emprisonnement après 4 mois. On continue à purger notre peine. La peine, quand on sort après un 6e, notre peine est quand même de 2 ans moins un jour. On continue de purger notre peine, mais on continue de la purger dans la collectivité, soit en étant maison de transition, soit en étant à domicile. On a un couvre-feu. Il y a des conditions qui sont assorties, mais il reste qu'on a fait seulement 4 mois en détention, puis par la suite, on la purge dans la communauté. Fait que c'est pas comme si non plus, en ce moment, la loi puis notre système ne permettait pas une certaine clémence. Il y en a déjà une avec la possibilité de sortie au 6e de la peine en ce qui concerne...
C'est ça le problème, elle est trop clémente, c'est ça?
Ah, ben ouais. Puis en ce qui concerne les peines de plus de 2 ans, donc dans les centres correctionnels fédéraux, parce que les 2 ans moins un jour, c'est provincial. On est dans les prisons provinciales. Les établissements correctionnels fédéraux, c'est à partir des peines de plus de 2 ans. Mais là, on peut sortir quand même au tiers de sa peine. C'est plus le 6e, c'est le tiers. Mais malgré tout, il y a quand même déjà là des mesures qui permettent d'aller continuer de purger sa peine dans la communauté ou à domicile. Donc, d'avoir ajouté des infractions qui permettent d'avoir carrément, dès le jour 1, une assignation à domicile, c'est franchement inquiétant. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec l'analyse dans 4 ans, mais selon moi, c'est beaucoup trop tard d'attendre 4 ans avant de faire l'analyse de tout ça. On voit déjà des dérapages, puis quand c'est rendu que l'Assemblée nationale adopte des motions à l'unanimité pour dénoncer ça, c'est quand même puissant comme message, puis comme incohérence avec ce qu'on essaie de faire, notamment ici au Québec, mais c'est pas dénoncé juste au Québec, là. Les agressions sexuelles,
C'est partout.
C'est ça.
Non, c'est partout. Puis le seul prix de consolation qu'on peut se dire, c'est que, comme dirait Bernard de Rome, si la tendance se maintient, on risque d'avoir un gouvernement conservateur de Pierre Poilievre majoritaire d'ici justement un an et demi. Donc, en espérant que ça puisse se casser, du moins ses premières années de mandat, pour rééquilibrer la tendance vis-à-vis ça, parce qu'à un moment donné, ça ne peut pas continuer. Parce que là, ça... Au contraire, ça encourage les contrevenants, ouais, à vouloir, parce que regarde, agression sexuelle, pas grave, comme tu dis, 4-5 mois à la maison, à gamer, puis à écouter du Netflix, c'est le fun. Pourquoi pas, t'sais. Fait que, non, ça n'a pas de bon sens. Fait que, tu sais, tout est basé sur les bonnes intentions, tu sais, l'aide juridique, puis tout ça, puis tu sais, certaines affaires que oui, méritent d'être là, mais à un moment donné, c'est pousser, mais pousser égal, parce qu'à un moment donné, la bonne intention, c'est un peu sur tout, hein? Tu sais, un peu comme un vieil adage, tu sais, à forte dose, toute médication qui est faite pour guérir dessus. C'est un peu ça, j'ai l'impression.
Ouais.
Fait que je pense que c'est un peu ça. Tu sais, de la modestie puis de la compassion, ça en prend. Mais à un moment donné, en trop en donner, tu finis par faire l'effet inverse que tu veux faire.
Ouais. Donc,
je pense que c'est aussi simple que ça. Puis des fois, il faut retourner à la base, comme dirait d'autres. Absolument.
Maria Mourani, une criminologue qui est quand même, qu'on voit régulièrement dans les médias, là, avait écrit un article dans le Journal de Montréal à ce sujet-là. Puis elle disait, tu sais, à quoi ça sert une peine minimale? C'est qu'elle vient instituer la gravité d'une infraction. Et là, ben, on est en train de dire qu'il y a certaines infractions qui sont plus graves parce qu'on n'institue plus la gravité d'infraction. Puis les infractions qui sont ciblées par ce projet de loi-là, là, je les ai trouvées dans son article. Là. Il y a décharge d'une arme à feu avec intention. Décharge d'une arme à feu avec intention. Vol et extorsion avec une arme à feu. Et plusieurs autres infractions aussi en lien avec la possession, le trafic, l'importation, l'exportation d'une arme à feu et de drogue aussi. Donc,
c'est un peu contradictoire. On parle du même gouvernement qui a banni les armes d'assaut, qui étaient très peu présentes au Canada, mais quand même. Puis de l'autre côté, il donne des peines bonbons et rend des crimes reliés aux armes à feu anodins au vu de la justice fédérale. C'est un peu hypocrite, là. C'est un peu contradictoire, un peu.
Ah oui, puis c'est comme si on a fait une analyse, on a fait une analyse sur l'ethnicité des suspects, puis on s'est dit, alors que l'analyse aurait dû être aux circonstances des délits, à l'historique criminel.
Ah, OK, je comprends, là.
C'est vraiment... c'est une mauvaise prémisse, puis on est parti sur une mauvaise...
C'est ça, on est quasiment rendu dans le mode « Black people can do no wrong », là, tu sais,
ouais.
Puis je trouve ça dommage, là, puis mon but, c'est pas de vouloir être raciste ou quoi que ce soit, c'est qu'on, tu sais, comme tu l'as absolument dit, il faut voir l'accusation par rapport à l'acte qui a été commis, ils n'ont pas la couleur de la peau de la personne qui l'a fait, si moi... Hey. Ça reste que, pauvre lui, il est emprisonné. Ouais, mais il a tué 2 personnes à coups d'arme à feu. Ah, mais là, il est noir, il faut le comprendre. Non, il ne faut pas le comprendre. C'est un meurtrier. Qu'il soit noir ou blanc ou jaune, orange, m'en sac, il a tué du monde.
Ouais.
À un moment donné, au vol à main armée, au vol à possession de drogue, pas parce qu'il est noir ou autochtone que tout d'un coup, il faudrait être plus clément avec.
Ouais.
Encore là, c'est pas le seul. Je comprends. On parle d'un sujet qui est multifactoriel puis que c'est pas le seul fragment de l'histoire, mais c'est ça. C'est de voir uniquement ça d'un point de vue de système raciste. Ben, c'est ça que ça donne, malheureusement.
Oui, puis là, ben, on a une augmentation des armes, pas des armes, mais des infractions avec armes. Tu sais, l'activité des gangs de rue à Montréal s'intensifie, mais c'est sûr qu'on peut quand même penser qu'il y a un lien aussi entre cette intensification de l'activité entre les gangs de rue à Montréal puis le fait que c'est devenu quand même beaucoup moins dissuasif d'aller vers certains crimes parce que, de toute façon, les gens savent qu'ils vont s'en sortir puisque Maria Mourani, qui suit énormément toute la criminalité organisée au Québec. Elle dit que ce sont les gangs de rue qui sont morts de rire en ce moment depuis l'adoption de la loi C-5. Donc, on se questionnait ou on voit l'activité criminelle augmenter à Montréal. Puis à tout bout de champ, il y a des fusillades des jeunes impliqués, puis on se disait, voyons, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est multifactoriel, c'est sûr. Sauf que c'est loin d'être dissuasif quand on sait que finalement, à une première infraction, surtout, on va s'en sortir avec une peine à la maison.
Absolument. Écoute, j'ai bien hâte d'avoir les conclusions de ces premiers 4 ans de ce dit projet de loi-là. Je pense qu'on va faire le saut que, justement, en voulant soigner, on a plus fait mal, on a plus nuit que d'autres choses. Mais regarde.
Quelle sorte de logique. C'est en lien pas mal quand même avec ce qu'on avait parlé de la semaine passée, avec cette débilité là, que la ville de Toronto veut mettre en place, calquée sur le modèle de la Colombie-Britannique, où on décriminalise la possession de toutes les drogues opioïdes. Ça fait juste accentuer des problématiques, ça fait juste faire en sorte que, à place de s'attaquer aux racines du problème, on fait juste se dédouaner comme système.
C'est ça.
On vide nos prisons, mais finalement, les rues se remplissent de camps de gens fortement intoxiqués, fortement dépendants, avec des gros troubles de dépendance et des overdoses quotidiennes. Parce que c'est ça, la police de Vancouver est aux prises avec des overdoses et de la criminalité importante liée au vol. Parce que ces délinquants-là, comment ils font pour acheter leur substance? Ben, ils volent. Et le nombre de crimes liés au vol, liés aux attaques de personnes, a augmenté. Parce que finalement, ben, ces quartiers-là où la consommation est bien installée, ben, les gens quittent ces quartiers-là, vont commettre leurs crimes, reviennent pour consommer à nouveau. Donc, on est comme entré dans une spirale où la logique de Justin Trudeau, la logique des libéraux est franchement questionnable et on est en train de voir des effets vraiment épeurants de tout ça.
Oui, puis les pocheurs, s'ils se font arrêter, sont sortis 4 mois plus tard. Fait que,
ah,
quoi de mieux, bien évidemment.
La belle clémence canadienne.
Oui, à un moment donné, je pense qu'il y en a beaucoup trop qui en profitent, malheureusement. Merci beaucoup, Jacinthe. Super merci intéressant. Toi. Écoute, il faut en parler. Hein, c'est un sujet que c'est ça qu'on jase un petit peu moins, mais quand même.
Oui, bien, c'est parce qu'on voit Pierre Poilievre aussi parler. Je m'excuse, on t'allait conclure, mais dernière chose, on voit Pierre Poilievre parler de criminalité. On parle des crimes graves, puis on le voit parler de ça, puis c'est comme si quand on est dans Bellechasse ou quand on est au Saguenay ou quand on est à Québec ou on est à Lévis, on l'écoute parler, puis je comprends qu'il y a des gens qui l'écoutent parler puis qui ne comprennent pas trop à quoi il fait référence, mais il est engagé dans une course pour devenir premier ministre d'un pays. Puis si on s'élève, puis on regarde ce qui se passe dans notre pays, pas juste dans notre ville, dans notre communauté, dans notre région, bien, on se rend compte qu'il y a des événements liés à la criminalité qui prennent de l'ampleur. On a perdu le contrôle. Puis ça, bien, c'est juste une question de temps avant que ça s'étende et que ça s'en vienne finalement nous toucher dans notre quotidien. Fait que c'est pas parce qu'on n'est pas touché au quotidien par la décriminalisation, par exemple, des drogues opioïdes, puis que la Colombie-Britannique n'est plus reconnaissable en ce moment, c'est pas parce que ça se passe à l'autre bout du pays qu'il faut pas s'y intéresser, parce que là, il y a Toronto qui regarde ça, et éventuellement, ben, avec les maires qu'on a, ça ne me surprendrait pas qu'à un moment donné, les dégermes ici, puis avec un code criminel qui est assoupli comme ça, ben, ça risque d'éventuellement nous affecter, c'est sûr.
Non, c'est ça. Prévenons au lieu de guérir, et justement, attendez pas que ça cogne à votre porte avant de réagir. Prenez les moyens nécessaires pour justement que ça ne se rende pas directement chez vous. Absolument. Écoute, ouais. Jacinthe, merci beaucoup. On s'en voit la semaine prochaine. Bonne journée tout le monde. Bye bye.